Alors, on continue notre émission à Ça vaut le détour. On accueille en studio pour une deuxième chronique, la chronique mensuelle de Société Logique. J'ai Sophie Langteau, directrice, avec moi. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Et on va parler aujourd'hui, en fait, d'accessibilité universelle des commerces, mais au-delà de la rampe d'accès. On a souvent dans l'idée, beaucoup de commerçants croient à tort parfois que leur commerce, qu'on parle de boutiques, restaurants, autres, sont accessibles parce qu'on peut y entrer. Mais ça va au-delà de ça. Mais avant de rentrer dans les autres aspects ont une influence sur l'expérience du client, on va rappeler tout de même le concept d'accessibilité universelle.
OK. Bien, l'accessibilité universelle, ça s'oppose à deux autres concepts qui sont l'adaptation puis l'accessibilité, dans le fond. Ce que ça dit, c'est qu'il faut tenir compte des besoins de toute la population pour arriver à ce que tout le monde utilise les mêmes choses de la même façon. Donc, on tient compte des besoins des gens qui voient moins bien, qui entendent moins bien, qui se déplacent ou qui comprennent différemment. Puis on trouve des solutions qui ne seront pas destinées uniquement à ces personnes-là, mais qui vont être utilisées par la population en général. Dans le fond, rendre les lieux plus fonctionnels si on parle de lieux. L'accessibilité universelle, c'est quatre axes. L'architecture, l'aménagement, les communications, les programmes, les services, l'emploi, puis la formation, service à clientèle. Quand on va parler des commerces aujourd'hui, on va parler surtout de l'aménagement, mais il ne faut pas oublier que les autres axes sont très importants aussi pour qu'on ait une expérience complète, comme tous les clients, parce que dans les commerces, c'est des clients.
Effectivement. Justement, bon, on a très bien résumé le concept d'accessibilité universelle. Avant d'entrer, il y a justement dans un commerce, il y a la façade, il y a les vitrines qui sont là. Parfois, peuvent poser un problème au niveau de la signalisation.
Oui, bien, en fait, la vitrine, c'est l'invitation dans un lieu. Hein. Donc, si c'est invitant, si on reconnaît facilement le commerce parce que c'est distinctif, on va pouvoir se repérer plus facilement, même si on comprend moins bien les choses. Si le numéro civique est clair, le nom est clair, avec pas des lettres trop stylisées, tout le monde doit être capable de les lire. Puis, si on a une vitrine qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur du commerce, bien, on va être invité, on va inciter à y aller, puis on va se sentir en sécurité aussi. Ça fait que ça commence déjà à l'extérieur, quand on approche du commerce.
On parle de l'extérieur. Maintenant, on va entrer dans le commerce. Donc, ça prend minimalement un accès physique.
Oui, il faut être capable de franchir la première étape, d'ouvrir la porte puis de rentrer. Idéalement, quand on parle d'accessibilité universelle, on parle d'une entrée de plein pied. Tout le monde passe par la même porte, tout le monde entre de la même façon. C'est sûr que dans les commerces existants, c'est pas si évident que ça. Il y a souvent une petite marche. La petite marche veut dire que tout le monde ne peut pas entrer dans le commerce. Il y a toutes sortes de façons de combler cette marche-là. On voit les plans inclinés là, temporaires amovibles qui apparaissent.
Une solution temporaire.
Temporaire, qui est super louable parce que les gens veulent fréquenter ces commerces-là, mais à long terme, ce n'est pas nécessairement viable. Ça ne permet pas l'autonomie. Il faut attendre que quelqu'un vienne installer ça, puis on ne peut pas en même temps emprunter ça, puis ouvrir la porte, puis entrer. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Il y a des solutions qui sont plus permanentes, mais ne sont pas évidentes non plus, parce que c'est toutes des solutions qui sont dérogatoires, dans le fond, parce que quand on a un plan incliné qui arrive direct sur le seuil de porte, ça ne respecte pas la réglementation de construction.
Donc, c'est quand même plusieurs éléments avec lesquels il faut conjuguer.
C'est ça. L'entrée, c'est déjà un défi à solutionner.
Prenons pour acquis que ce défi-là, on peut le surmonter. L'entrée est accessible. Une fois à l'intérieur, il y a tout de même d'autres choses à prendre en considération.
Oui, oui. Quand on rentre, on peut entrer dans un vestibule, avoir une deuxième porte. Mais là, si on n'a pas assez d'espace, on va avoir de la misère à ouvrir la deuxième porte. Fait que l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas de vestibule. C'est sûr que des fois, les commerçants nous disent « Ah, bien, en hiver, il y a du froid qui rentre. » Mais là, on peut installer un rideau l'hiver pour faire une espèce de sas qui va être facile à franchir puis qui va permettre de faire la même fonction, mais qu'on n'aura pas de vestibule. Ensuite, quand on rentre dans le commerce, idéalement, le commerce, il est sur un seul niveau. On n'a pas trois marches pour aller dans une section où il y a des produits ou tout ça. Donc, idéalement, c'est sur un seul niveau. Quand ce n'est pas possible, ça prend un plan incliné pour pouvoir franchir la différence de niveau. Ça prend des allées assez larges. Il faut circuler dans les allées. Des présentoirs avec des produits qui sont à une hauteur qu'on est capable d'atteindre.
Mm-hmm.
Ça, c'est bien important. Puis des fois, on voit que les allées sont assez larges, mais justement, comme ils sont larges, les commerçants se dépêchent de les remplir avec toutes sortes de produits là, d'installation, en spécial,
promotionnel.
Ouais. Fait que là, ça limite notre espace de manœuvre. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ça prend des comptoirs aussi qui sont à la bonne hauteur. Pas un comptoir à côté plus bas. Un comptoir pour tout le monde.
Mm-hmm.
C'est ça quand on parle d'accessibilité universelle, où on va être capable d'aller interpeller la personne qui est de l'autre côté du comptoir puis faire nos transactions à une hauteur qui convient à tous. Ça existe. À ces endroits-là, on a habituellement aussi le système pour payer le terminal de point de vente.
Mm-hmm.
Ça aussi, c'est important qu'il ne soit pas fixé sur le comptoir. On le voit trop souvent. Quand c'est fixé, à ce moment-là, c'est difficile de s'approcher pour voir ce qu'on est en train de faire quand on a une déficience visuelle ou quand on a une déficience motrice. C'est difficile d'y avoir accès puis de le manipuler.
Bien, même moi, je circule en fauteuil roulant et s'il est fixé au comptoir, je ne peux pas... voir, j'y vais comme, justement, mauvaise expression, mais j'y vais à l'aveugle, finalement.
À
pitonner moi-même sur les boutons sans voir qu'est-ce que je fais.
En espérant que ta transaction ne coûtera pas deux fois plus cher que prévu.
Exactement, on essaie d'éviter ça.
Ça, c'est certain que c'est contre le vol, parce qu'ils se les font voler, mais il y a moyen de pouvoir de pas le fixer, pour commencer, ou d'avoir un système de fixation où ça s'enlève très, très facilement. Puis là, on peut le passer à la personne qui en a mm-hmm. besoin pour qu'elle puisse le manipuler.
Il y a aussi une expérience d'éclairage. Parfois, l'éclairage, la musique, particulièrement dans les restaurants, ça peut vraiment avoir une influence sur l'expérience client.
Oui. Mais en fait, si on commence par l'éclairage, quelqu'un qui a une déficience visuelle, mais qui a un résidu visuel, tout ce qui est éclairage, contraste de couleurs, va l'aider dans le commerce, va l'aider à voir les prix, à lire un menu, même à s'orienter dans le commerce. Ça, ça devient important. Le bruit de fond, la musique de fond à ce moment-là, s'il y a beaucoup, beaucoup de bruit, la personne qui se guide plus à l'oreille, à l'audition, parce qu'elle voit moins bien, bien là, ça devient cacophonique, comme pour la personne qui a une déficience auditive, qui a beaucoup de difficultés à entretenir une conversation dans un restaurant quand la musique ou le bruit de fond est très, très élevé. Ça, ça a un impact également.
À ce moment-là, parce qu'il nous reste à peine une minute avant de conclure la chronique, à ce moment-là, lorsqu'on l'éclairage et la musique, ça peut être quelque chose qu'on peut demander à modifier. C'est là où est-ce que la formation du service à la clientèle est importante.
Elle devient très, très importante d'être capable d'identifier les clients qu'on reçoit, leurs besoins, puis d'être capable de s'ajuster, puis d'avoir des réponses intelligentes à leur donner aussi. Hein? Pas juste leur dire, bien là, on ne peut pas parce que c'est comme ça. Se mettre dans la peau des gens, c'est quand on conçoit un aménagement ou qu'on répond à nos clients, c'est ça qui est le plus important pour être capable de donner une bonne expérience client.
Mm-hmm.
Moi, j'invite les restaurateurs, les commerçants à se mettre dans la peau des personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles puis à analyser leur offre de service puis leur lieu en se disant, y a-t-il certains problèmes puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? C'est ces petites attentions-là qui vont faire la différence.
Oui, puis c'est aussi dans l'objectif, dans une optique d'accessibilité universelle, de ne pas toujours devoir emprunter un chemin alternatif.
Et oui.
Des options alternatives.
Et si on prend le réflexe de donner une attention particulière à nos clients, ça va être bon pour tous nos clients, pas juste ceux qui ont une limitation fonctionnelle.
Absolument ça. Ça parle un bon langage marketing. Je pense que ça peut rejoindre des gens. Merci beaucoup, Sophie Longteau, directrice de Société Logique, d'avoir mis un peu d'éclairage justement sur les défis aussi des commerces qui souhaitent être accessibles universellement. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.